On va parler de la parole de Dieu. Je suis content tout comme hier, parce que hier, Sandy a fait une introduction du message que j'allais apporter. Et aujourd'hui, c'est un peu tout le monde qui a fait, parce que j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de prendre ce thème. Dieu anticipe et se soucie de toi. Il anticipe et il se soucie de toi. Il y a ce petit verset dans Pierre, et après nous allons lire un texte un peu plus long dans le premier livre des rois. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il y a ce petit verset que nous connaissons tous, et nous allons juste lire, prendre ensemble, si 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Voilà. Et c'est le même, hein, c'est le même texte en Psaume 55, 12, mais on va prendre 1 Pierre, c'est plus ou moins la même chose. Et le texte nous dit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. De tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lorsqu'on regarde l'expression grecque, vos soucis et prend soin de vous, ces deux mots sont apparentés. En fait, littéralement, on aurait pu traduire: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même se soucie de vous. Hein, lui-même, il porte vos soucis, donc vous n'avez pas à les porter, Dieu se soucie. Et c'est dans ce contexte-là que j'aimerais vraiment entrer ce matin, où Dieu se charge de porter nos tracas, nos soucis, nos inquiétudes, nos craintes, nos luttes, nos combats. Il veut décharger vous sur lui. Il se soucie de nous. Et pour cela, j'aimerais prendre un texte aujourd'hui. Le texte que vous connaissez dans le premier livre des Rois, chapitre 17, on va parler du prophète Élie. 1 Rois, chapitre 17, on va faire quelques lectures à partir du verset 2. 1 Rois chapitre 17 à partir du verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Amen. On va s'arrêter là. Vous connaissez cette histoire, certainement qu'on l'a lue au moins une fois. On a, d'autant plus, Élie, on parle pas mal de cet homme de Dieu. Tant de famine, difficultés dans le pays. Bon, sur la parole d'Élie, c'était vraiment Dieu, hein? Dieu qui voulait faire savoir au peuple qu'il est le seul vrai Dieu, le peuple qui s'est détourné de Dieu. Et maintenant, Élie a dû s'éloigner, fuir aussi. Et alors que la famine commençait à se sentir, Dieu va spontanément s'adresser à Élie. Lui va donner quelques directives en disant: maintenant pars, va à tel endroit, près du Jourdain, il y a de l'eau que tu pourras boire. Et ce qui m'intéresse dans les deux choses que Dieu a dit à Élie, c'est: j'ai ordonné au corbeau de te nourrir, et un peu plus loin, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ordonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant même que Dieu ne soit venu s'adresser au prophète, il a déjà fait quelque chose. Il a déjà parlé au corbeau Bon, je ne sais pas par quel, j'essaie d'imaginer, est-ce qu'il a sifflé? Et il a parlé au corbeau. Il a dit, bon voilà, qui est le chef? Hein, corbeau chef, vous allez aller à tel endroit, à telle heure précise, et vous allez apporter de la nourriture à tel homme. Dieu va ordonner un commandement. Et ensuite, il va parler à Élie. Il va dire à Élie, va maintenant là-bas, parce que j'ai préparé des choses pour toi. J'ai anticipé de la nourriture, il y a ma petite armée qui va se lever, qui va te donner de la nourriture le matin et le soir. Et lorsque ça, c'était fini, il n'y avait plus d'eau dans le torrent, eh bien, Dieu va parler à une veuve. Et des fois, on l'oublie parce que, vous voyez, lorsque la veuve a vu Élie, lorsque Élie s'adresse à cette veuve, comme si elle le connaissait depuis X temps, puisqu'il n'y a aucune question, donne-moi un peu à manger, fais-moi à manger, et elle va faire. En temps normal, on ne le ferait pas, parce que c'est la famine, c'est difficile. Mais elle a déjà reçu quelques instructions de Dieu en disant, il y aura un homme qui va venir, tu vas l'accueillir, tu vas faire du bien à cet homme, tu seras une bénédiction. Et Élie ne faisait qu'entrer dans ce que Dieu a déjà prévu pour lui. Dieu a pourvu à l'avance. Il a anticipé les choses, il a préparé à l'avance, avant même qu'Élie n'ait eu le temps de demander quoi que ce soit à Dieu. Dieu a déjà tout planifié. Il s'est soucié de lui, jusque dans les moindres détails. Et il aura juste suffi pour le prophète d'entendre cette voix de Dieu, d'écouter cette voix de Dieu, de croire cette parole de Dieu et d'aller le faire. C'est ce qu'il a exactement fait. Amen. Et ce texte-là, pour moi, est très riche parce que ce n'est pas juste de manière occasionnelle que Dieu a fait une chose pareille. Mais lorsqu'on voit toute la Bible, Dieu se montre comme étant ce Dieu qui pourvoit à nos besoins, qui anticipe nos besoins, qui se soucie de nous. Déchargez-vous donc sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il a soin de vous. Alléluia! Gloire à Dieu! Vous connaissez l'histoire de Jonas. Je pense qu'hier, j'ai parlé un peu, je ne me rappelle plus. Et moi, ce qui m'étonne dans l'histoire de Jonas, lorsque je lis le texte, 3 ou 4 fois, le mot préparé revient. Dieu prépare, lorsqu'on regarde bien les mots utilisés, c'est il a préparé un gros poisson, il a préparé un bois de ricin, il a préparé certaines choses. Et c'est vraiment visible dans le texte, parce que vous imaginez, lorsqu'on allait jeter cet homme là, si le gros poisson n'était pas là, en quelques minutes, il aurait été noyé. Il était attaché. Donc le gros poisson était là déjà. Dieu a parlé avant en disant, gros poisson, localise-le. Et à telle heure précise, ne tarde pas. Hein. Dors plus tôt la nuit, si tu veux. Mais je veux que tu sois là à telle heure. Et tu ouvres comme ça. Et comme ça, il entre dans ta gueule. Je dirais même, Seigneur, la localisation exacte, à telle heure, tu es là. Tu as anticipé. Et lorsque Jonas a été jeté dans l'eau, il y a quelqu'un qui l'a déjà attendu là pour le recevoir 3 jours. Et c'est comme ça que Dieu a dirigé cet homme. Il a anticipé les choses. Il a anticipé son. Il a eu un petit accès de colère. Il a anticipé ça. Il a réglé ça aussi à l'avance. C'est comme ça que Dieu prend soin de nous. Il prévoit tout comme ça en avance. Il anticipe tout. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne à ne jamais se soucier. Parce que Dieu prend soin de toi de cette manière. Si nous comprenons ça, il n'y a plus aucune raison aussi importante soit-elle, qui doit nous pousser à avoir encore quelques inquiétudes que ce soit. Ça n'est pas normal. J'avais parlé hier avec les jeunes ici de Jérémie, où Dieu va dire quelque chose de même plus profond que ça à Jérémie, en disant, avant même que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et ça, c'est Dieu. De la Genèse jusque dans le Nouveau Testament, c'est comme ça. On ne parle pas beaucoup du fait que Dieu s'est soucié, Dieu s'est occupé d'Adam. On parle d'Adam qui a fauté, etc. Mais avant ça, avant qu'Adam ne soit formé, Dieu a déjà pourvu à tout ce dont il a eu besoin. Ah, le petit jardin, tout ce qu'il devait manger, tout ce qu'il devait prendre, etc. Dieu a déjà mis en place tout ça. Et c'est pour ça que Dieu l'a fait, pas le premier, second, troisième jour, mais à la fin, lorsque tout était déjà là. Ça aurait été difficile s'il avait été le premier ou second jour déjà là, vivant. Premier jour, il aurait nagé, quand même poisson, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à part de l'eau. S'il n'y avait pas encore la lumière, il aurait été dans le noir. Mais Dieu a tout planifié en disant, là c'est bon, là. Là je peux. Parce que comme ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et ce principe-là, c'est un principe qui est constant dans la Bible. Dieu se soucie de ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Comment est-ce possible que vous tombiez encore dans l'inquiétude? C'est pour ça que Paul dit, ne vous inquiétez de rien, de rien. Quelles que soient les choses, les périodes que vous vivez, que vous traversez, ça n'est pas possible pour un chrétien de se laisser encore tomber dans l'inquiétude, dans la crainte, ou dans l'angoisse, ou tout ce qui a été dit tout à l'heure. Pendant les chants de louange. Tout simplement parce que Dieu s'occupe merveilleusement bien de toi et de moi. Alléluia. Lorsque nous avons lancé l'église à Mayotte en 2017, c'était fin février, début mars 2017, j'avais dit à Vincent, voilà, j'ai un contact à Mayotte, on va y aller. Et donc on a programmé, moi je suis resté 2 ou 3 semaines, Vincent est resté un week-end et on a lancé l'église à Mayotte. Et spontanément comme ça, bon après... Parfois, je suis un peu comme Pierre. On ne pense pas trop. Boum. Et puis, j'ai dit à l'époque, bon, voilà, on a fait le premier culte le week-end, il y a eu quelques personnes, il y a eu quelques résultats, donc la nouvelle petite église de Mayotte est lancée. Il y a eu Nana qui était là, elle était d'accord, elle voulait s'engager pour être la leader de ce petit groupe, et moi, j'ai dit, tous les mois, je vais venir ici. Mais lorsqu'on dit tous les mois je vais venir ici, c'est les billets d'avion tous les mois. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens pour le faire, mais j'ai dit tous les mois je vais venir ici. Et Dieu merci, parce qu'il y a eu un homme que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, qui ne m'a jamais vu, qui n'était jamais venu à Mayotte. C'était une connaissance de Vincent, qui a été utilisé par Dieu pour financer tous mes billets d'avion à Mayotte pendant 2 ans. Donc 2 ans, j'ai fait un va-et-vient à Mayotte. J'ai même profité pour aller un peu à Mada, pour faire une autre mission, puisqu'il a tellement donné qu'il y avait trop d'argent. Donc Vincent a dit, mais vas-y, à Mada, on a encore un peu. Et puis comme ça, c'est comme ça que Mayotte a été lancée. Pendant 2 ans, on a eu les billets gratuits. C'est lui qui paye. Ce donateur inconnu, que voilà, j'ai même pas eu l'occasion de lui dire merci, je ne connais pas, j'ai pas son mail, j'ai pas son téléphone, j'ai pas. Mais il a fait comme ça. Et ça, Dieu a anticipé à l'avance, parce que on a eu ce besoin-là pour Mayotte. Et il aurait fallu juste croire que c'est possible, parce que c'est l'œuvre de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'était comme ça. Et à partir du moment où nos finances commençaient à lever un peu, ben le donateur a disparu. Et c'était dans nos caisses qu'on a payé les voyages maintenant. Et c'est comme ça. Dieu prévoit. Ne vous inquiétez de rien. Lui-même, il se soucie de nous. C'est pour ça, frères et sœurs, la chose la plus importante que nous avons à faire, ce n'est pas tellement de se dire comment est-ce que ça va se régler, c'est juste de nous focaliser sur ce que Dieu nous dit. C'est ce que Élie a fait. Il était en temps de famine, difficile. Il ne s'était pas focalisé sur lui, comment je vais faire pour vivre? Comment je fais pour affronter cette réalité-là? Il s'est juste focalisé sur la parole de Dieu. Il a entendu Dieu dire « va là-bas » et sans se poser beaucoup de questions, et voilà, il se focalise sur cette parole de Dieu. Et il est parti. Et c'est Dieu qui faisait le reste. Il s'est focalisé sur la voix de Dieu. Et je pense que c'est tout ce que nous devons faire. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? C'est là. Et lorsqu'on se focalise dans la parole de Dieu, on regarde la parole de Dieu, on entend la parole de Dieu, notre foi est fortifiée pour recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. On écoute le Seigneur comme ça et la foi est fortifiée. Plus on marche selon ce que lui, il a dit, notre foi devient de plus en plus forte pour recevoir ce qu'il a déjà pourvu pour nous. Vous voyez, je pense qu'il y a des moments où moi en tout cas, il y a des moments où j'ai dû changer certaines manières de prier que j'avais. J'ai dû changer parce qu'il y a des vérités de la Bible comme ça. Et il y a des moments où au lieu de focaliser mon attention sur ce que Dieu m'a dit dans sa parole et de dire, Seigneur, je veux croire ça. Ça, tu as dit. Tu as dit ça, Seigneur. Et je veux vraiment que cette parole-là soit pour moi, Seigneur, dans cette situation, etc. Il y a des moments où comme si on fait dans nos temps de prière, comme si Dieu n'était pas avec nous, n'était pas pour nous, comme s'il était contre nous et on doit se chamailler encore, Seigneur, mais pourquoi ça? Mais non, Dieu est pour vous. Focalisez-vous sur sa parole. Il a déjà tout prévu. Alléluia. Il y a déjà des corbeaux quelque part. Il y a une veuve quelque part à Sarepta qui vous attend de la part du Seigneur. Et il y a quelqu'un chez nous qui n'avait pas un travail, c'est toujours difficile, hein, vous voyez, c'est compliqué. Et moi, j'ai juste dit, Dieu a déjà prévu et pourvu ce travail. Il y a déjà quelqu'un là à qui Dieu a déjà préparé pour vous recevoir. Mais non, il faut juste y aller avec cette foi et cette conviction comme quoi il y a déjà quelqu'un. Vous n'êtes pas en train de chercher un travail. Vous êtes juste en train de chercher le travail que Dieu a déjà prévu pour vous, quelque part. Donc, s'il y a un qui refuse, vous allez juste dire, mais ce n'était pas celui que Dieu a pourvu pour moi. C'est fini. Et donc, vous tapez à quelques portes comme ça, mais vous n'êtes pas en train de chercher. Vous êtes en train, en fait, d'aller voir quelle est la porte que Dieu a déjà préparée pour moi. C'est comme ça, nous. Parce qu'il se soucie de nous. Il se soucie de nos vies. Et si nous vivons comme ça, vous savez, l'inquiétude, la crainte, toutes ces choses qui pèsent, et comme il a été dit tout à l'heure, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de crainte. Regardez autour de vous. Regardez autour de nous. Comment les gens sont angoissés, comment les gens les gens sont malheureux. Mais malheureusement, parfois le chrétien aussi, il tombe trop dans l'inquiétude. Trop. Dieu se soucie de toi. Et donc, vis ta vie avec foi. Vise la parole de Dieu. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit et laisse le Seigneur faire le reste. Il se soucie de vous. Le premier texte que nous avons lu tout à l'heure, vous voyez dans Pierre, lorsqu'on dit « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis », en fait, lorsqu'on regarde bien les mots utilisés, et même le texte dans l'Ancien Testament, dans Psaume 55, ce n'est pas « déchargez-vous », c'est plutôt « rejetez ». Rejetez sur lui vos soucis. C'est le mot utilisé. En hébreu, Psaume 55, c'est le mot « shalak » qui est utilisé. Et c'est le même mot qui est utilisé lorsque Moïse va jeter le bâton à terre devant Pharaon. C'est le même mot. C'est le même mot utilisé lorsqu'ils ont jeté les enfants dans le Nil. C'est là. Donc, avec Dieu, c'est comme ça. Tu prends tes soucis et tu les rejettes. Hein? Mon fils, chez Christiane et Antoine, on l'a appris à jeter les emballages dans le bac jaune. Ah, c'est une fierté maintenant pour moi parce qu'il sait jeter un bac jaune. Il prend les emballages et les petits trucs. Et une fois que vous jetez quelque chose, vous n'y pensez plus. Tout ce que vous avez déjà jeté dans une poubelle, c'est fini. C'est plus à vous. Lorsque c'était à la maison, vous y pensez. Il faut que je jette parce qu'après, ça va pourrir, ainsi de suite. Mais une fois que vous vous êtes débarrassé, c'est fini. C'est plus à vous. Vous n'êtes pas en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les employés municipaux avec ? Où est-ce qu'ils vont amener ça? Comment est-ce qu'ils vont traiter ça? Ce n'est plus votre problème. C'est leur problème maintenant. Ce n'est plus à moi. Je me suis totalement débarrassé. J'ai rejeté ça. Amen. Et c'est le mot que la Bible utilise en parlant de nos soucis, de nos difficultés, de nos tracas. La Bible dit « rejetez ça sur Jésus ». C'est-à-dire, vous vous déchargez totalement et vous ne pensez plus à ça. C'est fini, c'est une affaire réglée. C'est pour le Seigneur. Lorsque j'y pense, eh bien, je veux juste proclamer que Dieu est en train de faire des choses merveilleuses dans ce domaine. Alléluia. Oui, vous allez prendre le temps pour marcher jusqu'à Sarepta, c'est vrai. Vous allez prendre le temps pour arriver jusqu'au torrent. Mais ça, c'est un détail. Vous savez qu'il y a déjà quelque chose. Vous savez que le Seigneur a déjà pourvu à tout cela. Vous avez jeté. Et moi, j'ai plutôt l'impression que les chrétiens ne rejettent pas leurs soucis sur le Seigneur, comme il est dit, mais ils prêtent leurs soucis à Dieu. Je te prête pendant une journée, et le soir en arrivant, je reprends mes soucis pour qu'on puisse dormir ensemble et pour que ça puisse me faire du bien, comme les contes de ma mère lorsque j'étais enfant, pour que ses soucis me racontent des choses et au point où je suis tellement fatigué que je dors avec. Et bien sûr, demain matin, je vais te les redonner volontiers puisque je vais prier. Donc là, oui, Seigneur, je te donne, merci, etc. Et aussitôt, je reprends. Dès que j'ai un petit moment de libre, une heure, etc., je reprends parce qu'il faut que je réfléchisse là-dessus. Et on fait comme ça, un va-et-vient. Bon, après, le Seigneur, comme il est un gentleman, lorsqu'on veut reprendre, il dit, ben, prends alors. Que voulez-vous que Dieu fasse? Vous voulez encore garder? Je veux garder. Donc, il dit, ben, reprends. Ah, j'étais sur le point de donner un coup de pied, et tu vas, ben vas-y alors. Déchargez-vous. Alléluia. Déchargez-vous. Croyez que tout ça, c'est dans les mains du Seigneur et que Dieu va agir. Et oui, le temps qu'il faudra, oui. Mais pour moi, Seigneur, tu règles cette affaire. Et je te bénis pour ça. Merci Seigneur. Il y a ce problème, oui. Mais c'est ton problème maintenant. C'est fini, Seigneur. Je te loue pour ça. Et s'il faut prier comme ça pendant un mois, ça n'est pas grave. Je prierai comme ça. Mais je sais que ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est lui qui a dit, il se soucie lui-même de chacun d'entre nous. Moi, frères et sœurs, ce qui me plaît, c'est, vous savez, même ces moments ou lorsque vous allez être tenté. Parfois, on pense que ce sont des choses subites, c'est vrai, hein, brusques, brutales, on ne sait pas quand est-ce que la tentation frappera, quand est-ce que l'ennemi essaiera, on ne sait pas tout ça. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, que même les moments comme ça, si on peut projeter 1 Corinthiens 10, verset 13, regardez bien ce que Paul est en train de dire, voilà. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, ça c'est déjà bien, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant même que je ne sois tenté moi, Dieu a déjà dit à toutes les sortes de tentations en disant la limite de Rodolphe, c'est 48 degrés. Il ne faut pas monter plus. C'est là, 48 degrés. Il ne faut pas trop chauffer. Ça suffit amplement pour lui. Bon, pour Alex, vous pouvez monter à 90. Hein. Mais Rodolphe, c'est 48. Ça, c'est une chose. Dieu anticipe à l'avance. Avant même que je ne sois frappé par quelque tentation que ce soit, Dieu a déjà dit. Jusque-là, ça me rassure, pour qu'il soit capable de supporter à chaque fois. Et deuxièmement, Dieu a déjà prévu une issue de secours pour moi. Avant même que je ne sois entré dans cette difficulté, Dieu a déjà dit, il va sortir par là. Vous savez, les issues de secours, on ne va pas les préparer lorsqu'il y a quelque chose. On anticipe. Et tout le monde sait que si jamais, au grand jamais, ça se passe mal, eh bien, on va se diriger ici. Voilà, c'est là, c'est prévu, anticipé. Et même dans les temps de tentation, c'est comme ça. Tu as déjà prévu. Donc, il faut juste résister et te dire que la porte est là, quelque part. Il y a déjà une porte qui m'attend là, quelque part. Je sais qu'il y a déjà la victoire qui est là. Et je veux résister. Et lorsque nous résistons comme ça, l'ennemi est obligé de reculer de toute façon pour que cette porte de Dieu s'ouvre devant nous. Il a déjà prévu ça à l'avance. Alléluia. Vous savez, moi ce que j'aime, c'est que, heureusement pour nous, Dieu n'attend pas qu'on lui demande quelque chose avant qu'il fasse quelque chose. Ça aurait été terrible. Parce que combien de fois on demande mal des choses? Combien de fois on ne demande pas ce qu'il convient de demander? Mais Dieu qui nous connaît tellement, il anticipe des choses. Il veut juste qu'on lui fasse suffisamment confiance. Et comme il a été dit tout à l'heure, qu'on se repose sur lui. Qu'on se repose sur lui. Dans l'Épître aux Hébreux, le mot d'ordre, c'est cela. Entrer dans son repos. Entrer dans son repos. Pendant les temps de louange, il y a cette expression où Jésus, il est assis sur le trône. Assis. Vous savez, c'est quand même Jésus assis sur le trône. Parce qu'on voudrait voir Jésus pas trop assis sur le trône, il se lève, qu'il est à la tête de l'armée, qu'il donne un coup de pied à l'ennemi, c'est ce que nous... Mais Jésus est assis sur le trône. Pourquoi il est assis sur le trône? Parce qu'il a tout accompli. Alléluia. Il est entré dans son repos éternel, comme si Dieu, hein, au sixième jour, il a fini, il est... Voilà, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Le tableau est fait, ça a été peint. S'il va encore toucher, ben, ça va abîmer. C'est fini. Donc maintenant, il se repose. Et Jésus aussi, il a tout fait, il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Et il se repose. Il est entré dans son repos éternel. Et il veut que nous aussi, nous vivons ça. Il a tout fait pour que nous puissions vivre ce repos tous les jours. Donc si, je terminerai, si peut-être aujourd'hui, hein, je m'adresse à des gens, peut-être même la nuit, difficile pour toi. Quelques pleurs ici et là. tu t'inquiètes, tu t'agites. Eh bien, Dieu veut juste te dire aujourd'hui qu'il faut que tu apprends à prendre ça, rejeter sur lui et te reposer en lui. Faire confiance à Dieu et croire. Continue de croire que dans ta prière, tu montres que tu es une femme, un homme de foi. Dis à Dieu que tu lui fais confiance. Dis à Dieu que tu crois. Dis à Dieu que cette parole-là, c'est ça qui va se réaliser. Dis à Dieu que tu veux cette réalité de Dieu pour toi. Et c'est ce qui est le plus important. Et tu arrêtes d'écouter à gauche, à droite, le monde, la voix. Il y a tellement de voix qui fait que si on ne se concentre pas, eh bien, écoutez ça, on sera emporté par tout ça. Et on est emporté, vous savez. Moi, j'aime beaucoup la France, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vivre à Paris un jour, parce que c'est tellement mouvementé, avec nos une pauvre famille de 5 personnes, 4 valises, et puis on ne sait pas la gauche, la droite, et on n'osait même pas demander aux gens, ils étaient tous pressés. Je ne savais pas quel RER prendre, est-ce que c'est ici ou ici. Mais ma femme m'a osé interrompre une femme alors qu'elle était... Et elle a osé. Moi, je n'ai pas osé. Je me suis dit, ben, je vais perturber ces gens. Mais si on ne fait pas attention, eh bien, notre cœur sera comme... Ce n'est pas seulement nos pieds, là, c'est autre chose. Mais notre cœur sera tellement mouvementé alors qu'on est appelé à vivre dans le repos de Dieu. Tous les jours, parce que Dieu se soucie de toi. Tu as un avenir avec Dieu. Tu as un plan parfait pour toi. Voilà. Fais confiance à Dieu et entre dans ce plan de Dieu pour toi. Voilà. Pas grand-chose à faire. Tu fais confiance et tu crois. Amen.